Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'Église en parlant de la discipline dans la famille de Dieu. Nos deux études précédentes ont présenté l'Église comme une famille, un cadre dans lequel nous trouvons tout ce qui peut favoriser notre croissance spirituelle. Dans cette famille, nous avons aussi des responsabilités envers les autres. L'aide spirituelle est réciproque. Les membres de l'Église ont besoin les uns des autres, tout comme les membres d'un corps humain ne peuvent vivre s'ils sont séparés du corps. L'apôtre Paul dit que Dieu a fait les corps humains et l'Église de telle manière que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, verset 25. L'aide spirituelle, le suivi, la surveillance bienveillante, quel que soit le terme que l'on veut employer, nous en avons besoin. Parfois, surtout quand nous commettons une erreur dans notre vie spirituelle, nous ne voulons pas de cette aide. Mais c'est à de tels moments que l'intervention de nos frères et sœurs en Christ est probablement le plus nécessaire. Considérons donc l'enseignement biblique au sujet de la discipline dans l'Église. Le mot « discipline » peut s'appliquer valablement à tout ce que l'Église demande à ses membres pour promouvoir une bonne croissance spirituelle, y compris l'assistance au culte et aux études bibliques, les visites fraternelles et d'autres activités. Mais l'expression « la discipline dans l'Église » suggère généralement une sorte de correction. Il s'agit de ce que l'Église doit faire quand un membre se trouve dans un état de péché devant Dieu. Il y a trois raisons fondamentales pourquoi le Seigneur a ordonné à son Église de pratiquer la discipline. La première est l'amour pour le frère qui pêche. Un médecin a parfois besoin d'administrer une injection douloureuse qui fait mal dans un premier temps, mais qui est nécessaire pour guérir ou éviter une maladie mortelle. Un parent reconnaît qu'il doit parfois frustrer son enfant en lui refusant quelque chose que l'enfant désire très fort, mais qui, à long terme, lui ferait du mal. Ce n'est pas un plaisir pour le parent de dire non à son enfant, ou de le punir quand ce dernier a mal agi. Mais l'amour pousse le père ou la mère à exercer la discipline. Voilà pourquoi la Bible dit « Celui qui aime son fils cherche à le corriger. » Proverbe 13, verset 24. Le fait que l'amour excuse tout ne veut pas dire que l'on ferme les yeux sur le péché qui risque de condamner éternellement celui qu'on aime. L'amour excuse tout se réfère plutôt au fait que l'on continue d'aimer malgré les offenses les plus graves et de pardonner le pécheur qui se repent, quel que soit son crime. Le plus grand mal dans notre vie n'est ni la douleur, ni l'humiliation, ni la privation, ni même la mort physique. Selon la pensée chrétienne, le plus grand de tous les maux, c'est le péché. Il tue spirituellement. Il sépare de Dieu. Il condamne éternellement. C'est la maladie la plus dangereuse, l'ennemi le plus subtil et trompeur. Dans un sens, la catégorie de péché en question importe peu. Que ce soit un péché contre la moralité, tel que la fornication ou l'ivrognerie, un péché contre la paix et l'unité dans l'Église, ou un péché contre la vraie doctrine, il s'agit d'un danger réel qui demande une attention particulière. Voir son frère en Christ s'enfoncer dans le péché, sans essayer de le sauver, sans chercher à lui faire comprendre sa situation spirituelle et lui indiquer le moyen d'en sortir, voilà le véritable manque d'amour. La correction spirituelle que l'Église est appelée à administrer ne témoigne pas d'un manque d'amour. C'est tout à fait le contraire. Une deuxième raison pour la discipline est le souci de protéger la santé spirituelle de l'Église dans son ensemble. En 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul consacre tout un chapitre au besoin d'exercer la discipline dans l'Église de Corinthe. Un membre de l'assemblée commettait l'adultère avec la femme de son père. Selon Paul, même les païens ne faisaient pas de telles choses. Mais face à cette situation, l'Église ne réagissait pas. Et Paul l'exhorte clairement, que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, verset 2. Une motivation pour cette mesure est bien sûr le salut du frère coupable, selon le verset 5. Mais une autre raison est évoquée par l'image du levain, au verset 6 à 8. Tout comme la levure que l'on met dans la pâte de farine a un effet important de fermentation sur toute la pâte, de même le péché que l'on tolère dans l'Église a une forte influence de corruption spirituelle et morale. Les membres de l'Église voient les péchés des autres chrétiens, que ce soit le péché sexuel, l'ivrognerie, l'idolâtrie, le manque de générosité, l'indifférence, la corruption, la fraude, ou les paroles méchantes qui blessent et qui sèment la division. Ils voient que l'Église ne fait rien pour corriger ces personnes. Aucun avertissement, aucune marque de désapprobation. Et ils tirent la conclusion que ces péchés ne constituent pas de danger spirituel. Ils sont attirés par la facilité et le plaisir du péché. Ils ne reconnaissent plus qu'ils ont été appelés à sortir du monde et à vivre dans la sainteté. Ils oublient que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 9, et que si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. Voilà pourquoi nous avons des recommandations telles que « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux 3, verset 13. Chapitre 13, verset 15. Même si le chrétien qu'on cherche à corriger ne se repent pas, les mesures prises par l'Église pour le corriger ne seront pas pour rien. Ces mesures peuvent aider d'autres chrétiens à reconnaître le danger et à éviter de suivre l'exemple du pécheur. Il y a une autre valeur de la correction spirituelle, même là où le frère en faute ne revient pas au Seigneur. Elle permet de sauvegarder la réputation de l'Église aux yeux du monde. Il est vrai que l'Église est composée d'êtres humains faibles et pécheurs. On dit parfois que c'est un hôpital pour soigner des pécheurs et non pas un musée pour étaler des saints. Néanmoins, nous sommes appelés à être saints. Romains 1, verset 7. Notre lumière doit luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Notre comportement peut déshonorer le nom de Christ, ou bien favoriser la conversion des autres à la foi chrétienne. Tite 2, verset 5 à 10. Nous voulons que l'Église soit pure, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, et afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tite 2, versets 8 et 10. Lorsque ceux qui se disent chrétiens se comportent mal, la cause du Seigneur en souffre. Mais la correction spirituelle réduit les dégâts. Quand les non-chrétiens nous accusent à cause des péchés commis par un membre de l'Église, nous pouvons répondre si le coupable a accepté la correction. Oui, il a mal fait, mais il a lui-même reconnu son péché. Il a confessé, il a demandé pardon, et il a résolu de ne plus commettre cet acte. Même si le coupable a refusé de se repentir, l'Église est en mesure de répondre « Oui, il a mal fait, mais l'Église n'approuve pas son péché. Les membres ont tout fait pour l'amener à changer de vie. Comme il a refusé, nous avons fini par nous éloigner de lui et ne plus avoir de contact fraternel avec lui jusqu'à ce qu'il renonce à ses mauvaises actions. La discipline de l'Église n'est pas comme dans certaines religions où l'on exige de payer des amendes, de faire des sacrifices ou de faire la pénitence en récitant certaines prières des dizaines de fois ou en accomplissant certaines bonnes œuvres. Dans certaines religions, la personne qui se détourne de l'enseignement doit avoir peur pour sa vie, car ses co-religionnaires risquent de le tuer. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a enseigné en Matthieu 18, versets 15 à 17, quatre étapes par lesquelles on essaye de ramener un frère de son péché. Premièrement, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Remarquez que si son frère a péché, on ne doit pas se plaindre aux autres ou parler abusivement du frère à son absence. On ne doit pas non plus l'accuser publiquement. Il est possible qu'il ait agi dans l'ignorance. Il est possible que l'on se soit trompé sur la nature de son acte. Il est possible qu'il accepte humblement la correction. Deuxièmement, Jésus continue. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Quand le frère qui est en faute ne prend pas au sérieux le reproche ou le conseil d'une seule personne, il est parfois nécessaire d'aller avec d'autres personnes pour l'aider à comprendre la gravité de son état devant Dieu. Troisièmement, le Seigneur dit ensuite, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » On porte le problème à l'attention de toute l'Assemblée, pour que l'Église adresse des exhortations aux coupables dans l'espoir qu'ils voient la sagesse collective de l'Assemblée et reconnaissent son erreur. Jésus conclut finalement en disant, « Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Les Juifs n'avaient pas de contact amical ou fraternel avec les païens. Les publicains, c'est-à-dire des Juifs qui collectaient des impôts de la part de leurs compatriotes pour les remettre aux oppresseurs romains, étaient vus comme des traîtres à la nation et des apostats en ce qui concerne la foi juive. Les Juifs fidèles n'avaient aucune relation avec eux, sauf pour le paiement des taxes. La recommandation de Jésus dans ce passage vise surtout ce manque de contact fraternel ou social et ne sous-entend pas la haine ou le mépris. Cela se confirme par d'autres passages qui décrivent cette mesure. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15. Il y a des communautés où la correction d'un fidèle en erreur semble être l'affaire d'un responsable plutôt que de toute l'Église locale. On défend aux frères en faute de prendre la communion, mais les autres membres continuent souvent de s'associer avec lui comme d'habitude. Pour que la méthode biblique soit efficace, il faut que la correction soit appliquée par toute l'Église et non pas par certains individus seulement. Il ne s'agit pas d'un conflit personnel, mais d'une violation de la volonté de Dieu. Dans la discipline, comme dans tout autre aspect de la vie de l'Église, faisons tous nos efforts pour nous conformer au modèle qui nous est donné dans le Nouveau Testament. Personne n'est plus sage que Dieu, et nul ne peut améliorer le plan qui nous a révélé dans sa parole.
Beauté de discipline, J'espère.